Session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 5 juillet 96, deuxième conférence.
Dans la question.
C'est la question.
Saint Thomas affirme qu'il est nécessaire de dire que ce qui est principe d'opération intellectuelle, l'âme humaine, est un principe incorporel et subsistant. Peut-on dire dans cette lumière que c'est parce que l'âme est source de l'existence d'une puissance incorporelle, comme on doit le dire de l'esprit, qu'elle est elle-même nécessairement incorporelle.
Operatio sequitur esse. Je dis en latin, c'est plus universel. Alors, il y a un lien entre l'opération vitale et sa source, sa faculté. Il y a un lien direct, nécessaire. Donc, l'opération, j'en ai l'expérience de sa qualité particulière d'être une opération spirituelle. Opération indépendamment du corps. Donc, le mode particulier est universel. C'est le signe. Alors, ce que je peux dire, c'est que cette opération, comme de fait, est universelle, au-delà de la matière spirituelle. Réclame nécessairement une source, un principe qui est universel. C'est comme ça que je pose l'âme spirituelle, à partir de l'opération spirituelle, à partir de l'acte volontaire universel, l'acte volontaire spirituel. Alors, ce qui est très délicat, vous voyez, c'est de ne pas glisser l'hermologisme à partir de l'opération intentionnelle. On pose la réalité telle que l'opération existe. L'opération existe vitalement. Immanente. Elle est spirituelle. Il faut donc que sa source soit spirituelle. Autrement, elle ne pourrait pas être spirituelle. D'un spirituel qui est fabriqué par mon intelligence. Je connais les réalités physiques d'une manière spirituelle, puisque je les connais selon un mode universel. S'il n'y avait pas ce mode universel, la science n'existerait pas. La science en sait saisir des réalités qui sont universelles. Une nature qui n'est pas limitée à telle nature, à tel individu. Le propre de la science, c'est toujours d'être universel. Donc d'être au-delà du point de vue sensible et d'être universel. L'universalité de la science manifeste que le contenu de la science n'est pas individuel n'est pas physique, et que le contenu de la science est quelque chose dont la signification est universelle. Je connais d'une manière universelle des réalités physiques. C'est donc l'intelligence qui a fabriqué ce mode universel. Il y a donc dans l'intelligence une faculté qui dépasse le singulier et qui atteint une signification qui n'est pas liée au singulier, qui a un caractère universel. Donc j'atteins spirituellement, universellement, des réalités singulières. Et c'est mon intelligence qui permet de faire une telle saisie. Et à partir de là, la science, tu vois, la science peut exister. On est donc en présence d'une faculté active et dont l'activité et le mode de l'activité est au-delà du singulier, au-delà du particulier qui atteint l'universel. Donc, le mode d'exercice de cette faculté est spirituel. Et le mode d'exercice de cette faculté est spirituel. Si le mode de cette faculté est spirituel, il faut donc que cette faculté soit spirituelle, c'est-à-dire au-delà de la matière. Et si cette faculté, cette puissance, a un mode spirituel au-delà du mode singulier, particulier, il faut donc que cette faculté puisse atteindre quelque chose de spirituel et qu'elle-même soit spirituelle. Et si elle est spirituelle, elle n'est plus liée à la matière. Vous voyez comment saint Thomas raisonne là. Et à ce point de vue-là, il a tout à fait raison de dire que ce que je vois comme manière d'être dans l'opération intellectuelle exige qu'il y ait une faculté, une puissance capable de poser une opération qui soit au-delà de la matière, dans sa modalité propre. Et par le fait même que cette faculté s'enracine provient d'une substance elle-même au-delà d'un mode particulier, singulier. Donc au-delà de la matière et de la quantité. C'est le raisonnement de Thomas d'Aquin. Oui. Alors, ce n'est pas facilement, on dirait, c'est l'ontologie, quand on regarde rapidement, on serait tenté de dire ça, puisque l'opération a un mode, une intentionnalité universelle. Nécessairement, la source de cette opération est elle-même universelle. Au-delà d'intentionnalité, elle a un mode universel. Au-delà du singulier. Alors, je dis que ce n'est pas l'ontologisme. L'ontologisme, c'est de passer de la signification à la réalité. Là, il ne s'agit pas de la signification. Il s'agit du mode particulier de l'opération qui, elle, est réelle. Et donc, je passe du mode réel de l'opération au mode réel sequitur esse. Le mode particulier de l'opération implique une source qui soit de MD. Autrement, vous verriez une opération qui a un mode d'être plus parfait, non, moins parfait, je veux dire, que ce qui provient d'elle. Et donc, l'effet pourrait être plus parfait que sa cause. Or, l'effet n'est jamais plus parfait que la cause. Il est toujours dépendant de la cause. Et au point de vue de l'être, il est inférieur à la manière d'être de sa cause. C'est ça la raison. C'est assez subtil. Certains croient qu'on est très habitué à la philosophie et à ce genre de raisonnement. C'est pour ça que tu passes si vite. Mais aujourd'hui, nous devrions faire attention de ne pas tomber dans l'ontologisme. Or, apparemment, on a l'impression que c'est l'ontologisme. Ça ne l'est pas. Parce que l'effet qu'on constate, on le regarde dans son exister et sa manière propre d'exister. Et cet effet a une source, un principe, qui doit être capable de produire une opération qui a cette qualité particulière, qui est la qualité même de l'opération. Il faut qu'elle provienne d'une source qui est du même degré d'être. C'est perpétuel, tout simplement. C'est comme ça que je crois que c'est le plus facile pour nous à le saisir. La cause est toujours plus parfaite que son effet. Là, je crois que tout le monde peut être d'accord avec ça. Il y a quelque chose qui marche pas. Il a été complaisant. Hein. Première fois depuis le début de la chose, c'est extraordinaire. Il a été très sage. Parce qu'il est un peu fatigué à la fin, vous comprenez, vous inquiétez. Pas lui, le pareil. Alors il est très, très capricieux à ce moment-là. Je sais pas si, quand on le met à certains endroits, ça marche bien. Il est content, parce qu'on s'occupe de lui. Alors, l'effet est toujours moins parfait que sa cause. Parce qu'autrement, il y aurait une réalité d'une qualité telle qui n'aurait pas de cause. Ce serait elle qui dominerait sa cause. L'effet a un mode d'être au-delà de la matière. Donc un mode d'être spirituel qui relève de l'esprit. Toi qui es d'esprit, nécessairement, sa cause est au-delà de la matière et spirituelle. Donc, si je suis en présence d'une opération universelle, de signification universelle, je peux dire que sa source est un principe qui a une manière d'être, une subsistance qui ne dépend pas du corps. Le principe existe par lui-même.
Parler de l'individuation par la matière. Que peut-on dire donc de ce qu'il y a de proprement personnel dans l'âme qui me constitue comme une personne unique ?
L'âme humaine a quelque chose de radical dans son autonomie. seulement l'araignée. J'étudie l'animal. Et l'animal a un mode, une signification universelle. Donc, la personne humaine a une orientation dans la recherche de la vérité qui est au-delà de tout cas particulier. Je cherche toute vérité. Je suis capable d'aimer n'importe quel homme, tous les hommes. Dans l'amour d'amitié, je peux aimer tel homme, je peux aimer aussi tel autre homme. Il y a quelque chose d'universel dans ma capacité d'aimer. Et je sais que quand j'aime toujours une réalité singulière. Je n'aime pas l'universel. Mais j'aime une réalité singulière que je connais d'une manière universelle. Cela, c'est très important de le comprendre. Ce qui me fait comprendre que la personne humaine a nécessairement capacité d'aimer et de connaître universellement. Et donc, je retrouve dans la personne humaine à la fois sa singularité et son caractère universel. Je peux m'associer à n'importe quelle autre personne humaine. Je suis capable d'aimer n'importe quelle autre personne humaine. Et je l'aime toujours en tant qu'elle est singulière, en tant qu'elle est personnelle. Et c'est ça qui est si curieux, c'est que je retrouve toujours le point de vue singulier et le point de vue universel. Dans n'importe quel amour d'amitié, vous retrouvez ces deux caractères. L'amour humain porte toujours sur une réalité singulière. Mais elle a, cet amour humain a un mode universel. C'est qu'une seule personne ne suffit pas à satisfaire pleinement mon cœur. Jamais. Je peux très bien choisir une seule personne. Mais je peux comprendre aussi que mon amour a un certain mode universel qui fait que j'aime tous les hommes. Je n'en exclus aucun. Et c'est pour cela que dans le caractère même de la personne humaine, je découvre le point de vue de la singularité et le point de vue de l'ouverture universelle. Les deux choses se tiennent, ne s'excluent pas. Et au fond, l'effort de toute philosophie, c'est de voir qu'est-ce que je saisis d'une manière singulière. Qu'est-ce que je saisis d'une manière universelle ? Et c'est l'équilibre entre le singulier et l'universel qui caractérise chaque type de philosophie. Et c'est toujours le lien entre le singulier et l'universel qui caractérise une philosophie. Est-ce que c'est suffisamment répondu à votre question ? Redites-la.
Vous avez parlé de l'individuation par la matière, Que peut-on dire donc de ce qu'il y a de proprement personnel dans l'âme qui me constitue comme une personne unique?
Bon,
c'était aussi l'aspect de la...
La matière individualise. Pour atteindre quelque chose d'universel, je fais abstraction de tous les caractères individuels. Pour saisir ce que je vous ai dit l'autre jour, la quiddité. Pour saisir la nature. Pour saisir la nature de l'homme. Alors, l'âme humaine, séparée du corps à la mort, est-elle singulière? Est-elle universelle? pour ça qu'une fois que l'âme est séparée du corps, elle reste liée quant à son exercice. D'une certaine manière, elle reste liée au corps. Mais d'une manière très difficile à préciser, elle a été liée et donc elle demeure. Et pourtant, elle est séparée de la matière. Et donc, le caractère personnel de mon intelligence provient d'être singulier de l'exercice de mon intelligence. Il y a quelque chose qui est la mémoire de l'intelligence par rapport à ces actes qui ont existé entre ma manière de penser et l'exercice de l'image. Toujours ma pensée est toujours singulière et elle a un mode universel. Parce qu'elle a un mode universel, je peux vous parler. Parce qu'elle a un mode singulier, je peux progresser. Et c'est vrai que c'est très curieux de voir ça. Et c'est là où vous voyez, point de vue expérience et expérimentation d'expérience, vous voyez tout de suite que ma vie intellectuelle est une vie très spéciale, puisqu'elle a toujours ces deux éléments, universel, singulier. Et ce qui me fait comprendre aussi qu'il y a dans mon intelligence comme faculté quelque chose de singulier, c'est mon intelligence, et quelque chose d'universel, c'est l'intelligence capable d'atteindre l'universel, capable d'acquérir une science, une philosophie.
Vous dites que les âmes sont spécifiquement les mêmes. Nous avons donc tous la même âme.
Oui, oui. Alors, ça vous gêne? Ça vous gêne d'avoir la même âme spécifiquement que la mienne? Moi, ça ne me gêne pas. Pas du tout. C'est comme ça que je peux vous parler. Si vous aviez une intelligence et une âme qui seraient totalement différentes, l'un aboierait, l'autre miaulerait. Et il n'y aurait pas quelque chose de commun. Notre supériorité aux animaux, c'est de reconnaître quelque chose de commun. On se salue. J'aime tous les hommes. J'aime bien qu'ils soient un peu loin, mais j'aime tous les hommes. Au contraire, certains, j'aime bien qu'ils soient là. Mais c'est là où il y a une différence. Et mon âme séparée aura toujours un lien avec ce qu'elle a vécu avant. Toujours ça. Et donc, elle est vraiment singulière. Surtout si elle a beaucoup travaillé. Sa singularité augmente. Pas son universalité, mais sa singularité augmente. Donc, spécifiquement, alors, le caractère spécifique n'existe jamais seul. C'est pour Platon qu'il y a des formes en soi. Pour Platon, il y a l'intelligence en soi. Et donc, c'est la même intelligence pour chacun. Nous, nous savons très bien que l'intelligence en soi n'existe pas. Il y a l'intelligence de Pierre, de Jacques, ainsi de suite. D'Alfred. Il y a une intelligence particulière à chaque fois. Et cependant, il y a quelque chose de commun. Oui. C'est pour ça que quelquefois c'est si difficile de s'entendre. Parce que le caractère propre, singulier, individuel, apparaît particulièrement fort. Mais si on le veut, on peut toujours s'entendre. Parce qu'on a une intelligence qui spécifiquement est la même.
Vous avez parlé à plusieurs reprises de deux sources, le corps et l'esprit. Mais vous avez dit aussi que l'âme est seule et unique source de toutes nos opérations vitales. En quoi le corps est-il source ?
Il est co-principe. C'est-à-dire qu'il est une source seconde. Jamais première, mais seconde. Le corps court après. Parce qu'il est ordonné à l'âme. Alors quand il est trop pesant, il n'arrive plus à courir après. Il faut élaguer. Enlever certains kilos de graisse pour lui permettre d'avoir sa subtilité et de suivre. Quand il est trop fatigué, alors à ce moment-là aussi, il n'arrive plus à faire un effort, il est un peu écrasé par la fatigue. On comprend très bien tout ça. Et on le vit. Et notre corps est co-principe, c'est-à-dire qu'il est principe d'acte. Mais jamais premier, toujours en dépendance de l'âme. C'est le propre de la matière, ça. La matière n'existe jamais toute seule. La matière est cause matérielle. Et la cause matérielle n'est jamais première. Mais dans l'art, c'est net. La matière est présente dans l'œuvre et elle joue un rôle très grand, jamais principal. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'elle est co-principe. Et le corps est co-principe. Alors il donne une certaine gravité, une certaine pesanteur à mon action humaine.
Pourquoi la constatation de l'incorruptibilité de l'âme et sa subsistance ne peut suffire à affirmer son immortalité, mais seulement à conclure qu'elle peut subsister sans le corps ? Pouvez-vous préciser la différence entre incorruptibilité et immortalité ?
L'incorruptibilité, c'est négatif. Donc là, je ne précise absolument pas sa manière d'exister. Il est incorporel, incorruptible. Tandis que quand je dis il est immortel, j'ajoute sa manière d'exister. Il existe de cette manière particulière qu'il est au-delà dans son exercice de toute réalité qui sont des réalités. Dans leur exercice. Et je crois que c'est ça la différence. Et c'est ça qui fait que j'ai besoin de pouvoir saisir quelque chose de positif pour poser le point de vue de l'immortalité. Quelque chose de positif dans son exercice propre. Tandis que si vous dites incorruptible, vous ne posez pas quelque chose de positif. Vous posez simplement. l'église, il faut qu'il y ait une expérience de l'âme humaine séparée du corps qui continue d'exister et d'opérer. Alors je peux, à ce moment-là, saisir sa manière d'être, son comportement, sa manière existentielle d'être. Bon, je n'ai pas, au plan philosophique, d'expérience positive de la manière dont mon âme, séparée de mon corps, continue d'opérer. J'ai jamais vu une opération de quelqu'un qui était mort et qui s'est mis à me parler. Je voudrais bien le prendre, voyez, au magnétophone. Alors on mettrait au magnétophone conversation d'une âme séparée avec telle autre personne dont l'âme n'est pas séparée. Quand vous regardez tous les livres qui parlent de ça, c'est toujours un peu un aspect charismatique. Ce n'est pas un aspect immédiatement humain. Je ne dis pas qu'il est naturel que mon âme séparée ait un dialogue avec l'homme existant ici après la mort et existant uniquement comme une âme séparée, n'ayant plus de mode humain pour réaliser certaines opérations humaines. Alors c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même regarder la différence entre l'affirmation « cette âme séparée a la possibilité d'opérer tel ou tel langage, telle ou telle expérience ». Regardez avec beaucoup d'attention ce que représente cette opération. Et on peut dire qu'elle n'est pas normale, naturelle. Normalement, et c'est même très curieux, dans toutes les traditions religieuses, on dit qu'on passe d'un monde à un autre monde. Et celui qui est dans un monde au-delà du monde normal, qui vit comme une âme séparée, lui n'a pas d'expérience directe avec celui qui a et qui cherche à comprendre ce qu'il voudrait entrer. Il y a une coupure. Les âmes séparées n'entrent pas en contact avec les âmes qui sont les formes, les actes des hommes qui vivent. Il y a des corps particuliers. Alors ces cas particuliers sont-ils préternaturels? Sont-ils naturels? C'est intéressant à vouloir préciser cela. Bien, je crois qu'on doit dire que si on dit qu'un ange vous parle, qui vit ici-bas avec une recherche humaine et en même temps spirituelle et qui peut dire « Mon ange me parle régulièrement. » C'est pas naturel. Tout le monde n'aura pas cette expérience-là. Alors c'est une expérience où
dépendez de la personne.
ceux qui recevaient cela et qui étaient là pour nous avertir, ça ne faisait pas de mal, au contraire. Ça permettait d'avoir une lucidité plus grande. Je crois, ce qu'il faut dans ce domaine, c'est éviter tout scepticisme. Ce n'est pas divin. D'éviter une sorte de naïveté, puisque ça vient d'en haut, c'est sûrement bon. Non. Parce que le démon peut nous tromper. C'est le prince du mensonge. Alors c'est pour ça que pour nous, il faut tout le temps revenir à l'obéissance. Et ordinairement, le cri est le plus net. Si on a autorité, si on n'a pas autorité, on ne peut rien dire.
Que peut dire le philosophe sur les facultés autres que spirituelles après la mort, dans l'âme subsistante ? Doit-on affirmer que seul demeure l'esprit ? À la question 76 de la Prima Pars de saint Thomas, article 1, saint Thomas affirme « L'intelligence principe de l'activité intellectuelle doit être la forme du corps humain. » Est-ce que vous pouvez nous...
Doit être la forme.
La forme du corps humain.
Donc, redisez, si vous voulez bien.
L'intelligence, principe de l'activité intellectuelle, doit être la forme du corps humain. Je peux vous donner le texte, Père ? Parce que c'est saint Thomas.
Sorti du contexte.
Je vous le donne plutôt.
Non.
En latin.
Ah. Oui, vous le montrez, où, à quel endroit exactement ? Pour ne pas perdre de temps.
C'est là. Alors, ici. Là.
Oui. Alors, je vous le lis. Nécessi est dicere quod intellectus plus intellectus est intellectualis operationis principium sit forma humani corporis. Donc l'intelligence inveniat modum quo ista axio quis intelligere sit ullus aminis axio expiatur enim unus quisque se ipsum esse quintelligi attributur autem amica axio adicuius triplicitaire ou de patate soupinant par le philosophe. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est très délicat. On voit très bien l'intention de Thomas d'Aquin. L'intelligence est-elle la forme de mon corps? C'est-à-dire l'esprit qui est forme du corps. Mais ce n'est pas l'esprit qui est immédiatement forme du corps. Il l'est immédiatement. Donc ce que dit saint Thomas n'est pas faux, mais manque de précision. C'est ordinairement ce que les commentateurs de saint Thomas disent. Saint Thomas, de temps en temps, va tellement vite. Avec une telle rapidité que son écriture était illisible. Alors beaucoup d'intellectuels ressemblent à saint Thomas sur ce point. Il n'y avait que frère Reginald qui pouvait lire Thomas d'Aquin. Et s'il allait tellement vite, on comprend comment il pouvait télescoper un intermédiaire. Et que ceux qui comprennent sa pensée, alors, parce que c'est très curieux, on se sert de ce texte, vous savez pourquoi dire ? Pour dire que mon intelligence est ma substance. Ce qui est la position des néoplatoniciens. Alors que saint Thomas n'a jamais dit que mon intelligence était une substance. Mon intelligence est source d'une opération intellectuelle. Et mon intelligence n'est pas forme de mon corps. Oui, là je rejoindrai Léonard de Vinci, qui disait qu'à 45 ans, l'homme ou la femme avait la figure de son âme. C'est quelquefois vrai. Et quelquefois... humain au point de vue de la vie végétative. C'est très puissant. Alors vous retrouvez des ressemblances avec votre arrière-grand-père ou votre grand-père qui était un osseur de premier ordre. Alors vous retrouvez des traces. Alors que le petit-fils a fait des progrès intenses et son âme s'est purifiée. Et cependant, il y a des gènes qui demeurent et qui fait que sa figure n'est pas du tout l'expression de ses qualités. Mais ne jugez pas selon les apparences. Pratiquement, on devrait dire jugez selon les apparences. C'est pour ça que là, je dis tout simplement que saint Thomas a été un peu trop vite. J'ai le droit de corriger certaines phrases de Thomas d'Aquin en fonction de tout le contexte. Parce qu'autrement, vous êtes obligé de dire que l'intelligence modifie son corps, puisqu'elle est la forme, et que mon corps, déterminé par mon intelligence, reflète donc la spiritualité de mon intelligence. Et si j'ai une intelligence très développée, l'intelligence va refléter à travers le corps la profondeur de ma vie intellectuelle, ce qui n'est pas toujours juste. On a tous vu des brigands qui avaient un visage angélique. Quelquefois, on a rencontré la